Yo les jeunes, c'est Tutsi, j'avais quelques mots pour vous avant que l'épisode ne débute. Je tenais simplement à vous dire que j'enregistre cet épisode très très dernière minute. Donc le premier épisode est sorti le 14 mai, ce deuxième épisode est prévu pour le 18. Le 18 avril, c'est demain, donc voilà, je vais faire une sortie mensuelle. Et là, pour une raison... logistique. Le troisième épisode a été enregistré avant. Et comme j'étais un petit peu mêlé et que j'ai tendance à m'éparpiller entre le travail, l'école et les projets personnels, eh bien, le troisième épisode a été mis en ligne genre 3 jours avant le deuxième épisode. I'm sorry about it. J'ai supprimé le troisième épisode qui sera remis en ligne dans un mois. Donc voilà, le deuxième épisode va être plus récent en fait que le troisième. Anyways, on s'entorche. Je tenais juste à vous dire que si l'épisode d'aujourd'hui vous semble un peu plus déconstruit, un peu moins éloquent que d'habitude, ben c'est peut-être à cause de ça. Mais c'est pas grave, j'ai confiance qu'on va tous avoir beaucoup de plaisir ensemble. Et c'est parti. Bonsoir et bienvenue au Café Plot. Je m'appelle Tutsi, je suis fan de disco et d'histoires sordides. J'espère que vous trouverez ici un excellent truc à faire jouer avant de vous endormir, dont vous vous rappellerez fuck all demain matin. Pour ce deuxième épisode de Café Plot, j'aimerais lancer une discussion unidimensionnelle avec moi-même, parce que j'ai pas encore d'invité. Mais c'est correct parce que j'ai une grand-gueule qui n'aime pas tant se faire interrompre. D'autant plus que pour cet épisode, j'ai un sujet qui touche beaucoup de cordes sensibles. D'une part parce que c'est moi qui l'ai choisi, hein? Et d'une autre parce que le sujet, c'est l'homo-érotisme au cinéma. Et plus précisément, dans le cinéma d'horreur, hein? Ben oui. Encore une fois, ça risque d'être assez personnel, hein, comme lancé. Pour la simple et bonne raison que je vais parler de ce que j'ai vu et que, ben, j'ai pas tout vu. Cela dit, dans ce que j'ai eu l'occasion de voir, il y a beaucoup de patterns, d'éléments qui reviennent et qui m'affectent d'une manière assez, je dirais, ambiguë. J'ai une relation assez love-hate avec le gay horror cinéma, if that's even a thing. Je vais pas trop non plus entrer dans la labellisation, hein, mais dans le but de cerner un sujet, il y a pas trop d'options, hein, même en 2025. C'est la limite des mots. Et si tu veux que des mots, doux comme l'eau, ils sont ce qu'il te faut. En fait, je crois que lorsque le cinéma d'horreur met l'emphase sur l'homosexualité masculine, ben, il y a une partie de moi qui est contente de se voir représentée à l'écran. Puis une autre qui est également heurtée par ce qu'on choisit de montrer. Hein? Donc entre autres, l'hypersexualisation de la jeunesse et du corps masculin. Je dirais aussi qu'on est beaucoup dans la glamorisation des relations impossibles, abusives. Une glamorisation de la misère, je dirais. Sur Letterboxd, oui, Letterboxd, j'ai lu plusieurs fois le terme « misery porn ». Et dans ce cas-ci, je le trouve tout à fait approprié. Ce sont des éléments qu'on a vus énormément aussi dans le cinéma dit « straight ». Simplement, je dirais que, contrairement aux relations hétérosexuelles, ben, la représentation de l'homosexualité dans le cinéma d'horreur, et ben, en fait, je dirais même dans le cinéma tout court, on est très souvent dans l'érotisation et la misère humaine, avec des histoires qui se finissent souvent avec la mort d'un des protagonistes. Bouhouhou. On peut penser à des films dramatiques comme Dream Boy de James Bolton, qui est un petit drame indépendant sorti en 2009, qui raconte l'histoire de deux adolescents qui tombent en amour dans les années 80. C'est super beau, c'est sexy par moments, mais à un certain point dans le film, le couple secret s'en va en camping avec d'autres camarades masculins qui, lorsqu'ils vont découvrir l'union des deux garçons, vont décider de violer et tuer l'un des deux. Le film se termine comme ça. Avec le petit twink qui s'imagine le fantôme de son copain mort et violé, complètement off-tone avec les deux premiers rangs. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. C'est comme s'il fallait absolument patcher une fin tragique. Parce que Dream Boy, avant tout, c'est un roman de Jim Grimsley qui, lui, se terminait avec une note d'espoir. Hein? Il y a personne qui mourre. Comme second exemple, j'ai « L'amour en temps de guerre civile » de Rodrigue Jean. C'est un film qui suit le quotidien d'un gigolo héroïnomane dans les rues de Montréal. Donc le film est dark, cru, avec une approche quasi-documentaire. Écoutez, le film commence avec Alexandre Landry qui dit à son chum « Je peux-tu te manger le cul ?» Probablement le seul élément auquel je peux relate à présent. J'ai parlé de misery porn tout à l'heure. On est en plein là-dedans. Mais je dois dire que le cinéma québécois mise beaucoup là-dessus. Un sous-genre qui s'incruste particulièrement dans le cinéma québécois. Oh my god, j'ai écrit ça, je suis bien pas fin. Ok. C'est un sous-genre qui s'incruste souvent dans notre cinématographie. Hein? On a juste à penser à un réalisateur comme François Delisle qui nous sort des mélodrames assez crus, comme par exemple Cash Nexus, qui raconte aussi l'histoire d'un junkie qui mange des graines pour payer sa dose. Puis à la fin, il est mort d'une overdose. Plus de drogue, plus de cul. Bon. On a Notre paradis de Gaël Morel. Encore une fois, on suit un couple de prostituées masculins. Hey, c'est drôle, je vois comme un pattern ici, je sais pas pour vous là. Mais on a deux petits voyous cette fois qui n'hésitent pas à voler et tuer pour aboutir à leur fin. Dans ce film particulièrement, il y a une phrase qui me joue encore dans la tête aujourd'hui. On a le personnage de Stéphane Rideau qui est dans la mi-trentaine qui déclare à son nouvel amoureux de 17 ans: l'âge, quand t'es pédé, c'est comme les chiens. Tu dois multiplier. Plus de 30 ans et c'est déjà la fin. Ouf. Notre paradis, c'est pas un film extraordinaire, mais cette réplique, elle réussit à me briser le cœur. Oui, j'ai un cœur. J'ai dû écouter Martyr 24 fois, mais Notre paradis, une fois, c'est suffisant. C'est le genre de film qui me confronte à des préjugés dont j'essaie moi-même de me départir. Des discours selon lesquels un homme gay, après 30 ans, c'est plus désirable, ça peut plus fourrer, ça peut plus être intéressant, ça peut plus avoir d'ambition. La vraie homosexualité réside dans la jeunesse, la débauche, l'apparence. Comme pour les femmes, dans le fond, c'est le fun. À télévision, on peut observer ces tendances-là dans le travail de Ryan Murphy. Hein? Il y a beaucoup d'homo-érotisme dans American Horror Story, mais également beaucoup de crimes haineux, de viols. Ryan Murphy a tendance à associer l'homo-érotisme à la déviance. C'est notable aussi avec les libertés qu'il a prises dans ses séries True Crime sur Dahmer ou les frères Menendez. Dans les deux saisons de Monsters, on est beaucoup dans l'esthétique du corps. On voit même le pénis de Eric Menendez, parce que c'est de la télévision sulfureuse, les amis. Ryan Murphy choisit des acteurs qui ont des têtes et des corps de top modèles, qui jouent comme des top modèles. Et non, j'entends pas par là qu'il joue mal, il a choisi deux très belles gueules pour interpréter deux criminels qui, by the way, sont toujours en vie hein, et n'ont pas aimé la série. By the way, ils sont pas si cute que ça dans la vraie vie non plus. Et en même temps, c'était quoi les chances qu'ils trippent? Murphy a pris la décision de mettre en image des rumeurs sensationnalistes, dont la rumeur selon laquelle Lyle et Eric ont vécu une relation incestueuse. Dot, dot, dot. Donc, des psychopathes sexy, des crackheads sexy, des relations vouées à l'échec ou la mort. Bref, beaucoup d'exemples qui donnent le goût de chanter le YMCA en soude de rubber. pas beaucoup de figures auxquelles on peut s'identifier, du moins dans mon cas, hein, je juge pas. Mais à 14 ans, quand j'étais encore dans le placard et que j'écoutais American Horror Story et que je me trouvais donc edgy, ben ça réveillait quelque chose en moi, hein, de voir autant de tabous brisés sur l'homosexualité masculine. Parce que j'avais pas eu l'occasion de voir ça souvent à l'écran. Mais en même temps, il y avait une partie de moi gênée de sortir du placard parce qu'en voyant ça, ben, je pensais pas avoir ce qu'il faut pour être gay. Neither the mind or the body. Tu sais le feeling qui vous prend à chaque fois que vous lisez une description sur Grindr? Ben voilà, j'appelle ça l'effet Ryan Murphy. Pas d'amertume ici, hein, j'ai l'air de chier beaucoup sur toutes ces œuvres, mais en fait, je ne fais que m'y intéresser. Autrement, j'en parlerai pas. Donc voilà, je ne juge pas ces films, je les regarde comme tout le monde et ça me divertit beaucoup. Certains moins que d'autres, qu'on se le dise, mais souvent, ils me font mal. Et je me demandais si ça m'était personnel de le recevoir de cette façon-là. C'est toujours facile de projeter ses traumas dans un film qu'on écoute. C'est ce qui va faire qu'on va être plus sensible à un certain genre de film, après tout. Mais je me demandais si vous aussi, chers auditeurs, auditeuses, si vous voyez aussi une corrélation de film gay en film gay. Donc voilà, je serais curieux d'avoir votre vision de la chose. Mais en attendant, on va se plonger la main directement dans le sphincter, pardon, la matière. Comme principal référent, j'ai choisi le film Swallowed de Carter Smith, qui est un film de 2022, un film qui est selon moi l'exemple parfait de tout ce que j'adore et déteste des films gays. On va les appeler comme ça, ok? J'ai pas envie de passer par huit chemins là. C'est également un de mes films préférés. C'est un film qui m'émerveille, qui me touche. Oui, qui me touche. Qui m'hypnotise à chaque fois et qui détruit mon moral durant les trois jours qui suivent le visionnement. Chaque fois aussi. Ça en dit beaucoup sur moi. Et si vous n'avez pas encore vu Swallowed, ce serait le moment de le faire parce qu'à partir de maintenant, je vais tout spoiler. Alors, les amis, entrons dans le film comme avec Franfluche, là. Mais on rentre dans bobine. Swallowed est un long métrage de Carter Smith sorti en 2022. Smith est un réalisateur et photographe. Il a commencé comme photographe de mode et depuis, il continue à explorer de façon très frontale l'esthétique du corps dans son cinéma. Donc, le film met en vedette Cooper Koch, José Colón, Jenna Malone et Mark Patton. Alors voilà, ça commence ainsi. Benjamin et Dom sont deux amis d'enfance dans la mi-vingtaine, on suppose. Ces derniers se retrouvent dans un bar pour célébrer leur dernière soirée ensemble parce que le lendemain, Benjamin, interprété par Cooper Koch, s'envole à LA avec l'ambition de devenir une grande porn star. Situation qui inquiète Dom. Alors, pour veiller à la sécurité de son ami, il veut lui offrir un montant d'argent supplémentaire. Pour gagner cet argent-là, il va devoir traverser la frontière canadienne avec de la drogue dont il ignore encore l'origine. Et ce, le soir même. Tant, tant, tant. Bon, déjà, Ben est un sex worker. Hein? Dès les premières minutes, le personnage entre dans les cases dont j'ai parlé plus tôt. On est dans l'hypersexualisation de la jeunesse et de la débauche. C'est une porn star dans un bar. Mais voilà, ça m'empêche pas de trouver ça quand même fucking badass d'avoir un protagoniste qui est un acteur porno gay. Hein, j'ai pas vu ça souvent. Donc voilà, j'adore. Dom avait arrangé le deal avec sa cousine. Oui, on est revenu à Dom qui veut faire un petit deal de drogue. Donc Dom avait arrangé le deal avec sa cousine, mais quand il arrive au point de rencontre, dans une genre de ferme, dash, garage, je sais pas trop... sur place, la cousine de Dom est complètement wasted, puis elle est accompagnée d'une autre fille qui s'appelle Alice, qui leur annonce que c'est elle avec qui ils feront affaire, finalement. Donc Alice, la pocheur, explique le deal. Elle présente à Dom une boîte contenant une demi-douzaine de comprimés gluants hein, qu'il doit avaler, chier et remettre intact une fois la frontière traversée. Il se fait demander de les rincer, évidemment, mais il refuse. Il refuse, mais Alice les menace d'un fusil, forçant même Benjamin à en avaler un. Maintenant, ils sont tous complices et doivent se retrouver dans une halte routière canadienne pour finaliser la transaction. Donc, ils partent chacun de leur côté et les deux garçons arrivent avant Alice dans l'halte routière canadienne. Donc, évidemment, il y a un petit malaise durant l'attente, mais il y a quelque chose de vraiment cute qui se produit. Donc, ils ont une discussion et Benjamin va sous-entendre que Dom lui voue une certaine animosité parce qu'il s'en va à LA. Donc, il va lui dire carrément, t'aurais pu simplement venir avec moi à Los Angeles, hein? T'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent supplémentaire. Et son ami rétorque qu'il avait peur qu'il se fasse exploiter, hein? Qu'il se fasse voler par ses employeurs en arrivant à LA. Et qu'il s'inquiète autant pour lui parce que jamais de sa vie, il a autant aimé quelqu'un. Mais là, Benjamin est surpris, parce qu'il a toujours considéré son ami comme un jock straight, hein? Puis on sent qu'il s'adoucit un peu. Les deux ont un petit rire complice, donc voilà, c'est super cute. Ça découle complètement du fantasme de l'ado de 14 ans qui n'est pas encore sorti du placard et qui trippe sur son partenaire de lab, Gaston. Mais c'est vraiment très cute. On route vraiment pour ces deux personnages-là. Dès les premières minutes, on veut qu'ils s'en sortent. Et évidemment, de préférence, pas trop maganer. Là, ils vont dans la toilette publique vraiment crade de l'halte routière afin de récupérer les choses, mais rien ne sort. Il y a un redneck homophobe qui entre dans la place, qui voit les deux gars et décide de crisser un coup de poing dans l'estomac de Dom avant de repartir. Dom s'écroule sur le sol, pris d'une douleur inexplicable, et finit par excréter deux genres de petits sacs amniotiques qui bougent. C'est dégueulasse. Et c'est filmé de façon très frontale, pas nécessairement flatteuse pour... pas nécessairement flatteuse pour les acteurs, qui pourtant ont une plastique impeccable. Il y a quelque chose d'à la fois tragique et pathétique de voir le personnage de Dom aussi vulnérable, les culottes à terre en gros crotch shot dans lesquels il essaie de pousser de la substance illégale par ses fesses. Sur papier, c'est dur de s'imaginer que ça pourrait fonctionner comme effet dramatique. Et pourtant, je regarde ça et tout ce que je ressens, c'est du malaise et de l'impuissance. Je le mentionne maintenant, mais c'est une vibe qui est bel et bien présente tout le long du film et qui contribue à son unicité. Les gars retournent dans la voiture. Ben doit aider Dom à monter parce que ce dernier ne sent plus ses jambes et qu'il a la queue bandée. Ouais, on apprend plus tard que c'est un effet secondaire de la drogue qu'il transporte dans son corps d'Apollon. Ben veut appeler la police pour aider son ami, mais Alice arrive sur les lieux en lui disant « Why the fuck are you calling the cops? » Comme le gros dégueu dans les toilettes a crevé leur pneu de voiture, les deux bros embarquent avec Alice. Dans la voiture, elle en apprend un peu plus à Benjamin par rapport à ce qu'ils transportent dans leur corps. Ce sont des insectes. Des insectes que des gens vraiment riches achètent sur le black market afin de se défoncer bien comme faut. On comprend un peu mieux ce qui arrive à Dom. Quand il a reçu un coup de poing dans le ventre, un des sacs s'est brisé, il en a expulsé deux. Mais il y a une bébite en liberté dans son corps qui l'a mordu, et c'est pour ça qu'il a l'air d'être sur un méga trip de MD. Elle prétend les amener à l'hôpital pour finalement les amener dans un vieux chalet délabré où on peut même pas se stationner. Faut marcher environ 1 km sur la propriété privée. Comme Dom peut pas marcher, Ben et Alice le traînent dans une brouette. C'est très déshumanisant de le voir comme ça, les culottes baissées, les pattes qui tremblent au rythme de la brouette. Et pourtant, on sent que c'est fait avec beaucoup d'affection, comme c'est Ben qui s'est porté volontaire pour le traîner. Alice était un petit peu trop brutale. Ouais, ce personnage-là est vraiment une bitch. I love her. Elle est très antipathique, elle n'a pas une once de douceur, tout ce qu'elle dit est chiant, puis elle se montre agressive depuis le début. Juste à voir la façon dont elle aide, guillemets, dont elle aide Dom à se déplacer. She doesn't give a fuck, or at least that's the vibe she gives. Dans le chalet, elle apprend aux deux garçons que son boss doit très bientôt venir récupérer les bébites. Et il n'y a pas de temps à perdre. Faut récupérer les deux autres larves coincées dans le rectum de Dom. Le rectum de Dom. Alice sort un pot de vaseline vieux de 10 ans et ordonne à Ben de se mettre au travail. Ah mon dieu, excusez-moi, la semaine s'achève, je suis fatigué et ce film-là est plus convaincant à l'écoute que lorsque c'est moi qui le décris. Donc, Alice sort un pot de vaseline vieux de 10 ans et ordonne à Ben de se mettre au travail. Et là, ça devient très, très intense. Donc, dans une séquence qui est très bien filmée, très bien jouée, Ben va difficilement aller chercher les sachets à l'intérieur de Ben. L'emphase est tellement mise sur le visage des acteurs, on peut voir leur agonie à tour de rôle. Donc c'est une scène qui aurait pu aller très loin dans le mauvais goût, hein. On aurait pu aller dans quelque chose un peu à la Human Centipede 2. Bon, on n'avait pas besoin d'aller dans cet extrême-là. C'était peut-être un peu trop clean à mon goût, cela dit, j'y reviendrai. Mais bon, Dom hurle et grimace de douleur alors que sur le visage de Ben, on ressent de l'inconfort, mais surtout de l'empathie. À ce moment-là, Alice reste de marbre et elle pointe les garçons avec un pistolet. Ben oui, she's that nice. Ça dure un bon moment et c'est assez difficile à regarder. Et pourtant, tout demeure très propre, comme je disais, hein, autant la cinématographie que le corps des acteurs. Et oui, oui, je retourne encore au corps des acteurs. Le contexte de cette scène est dégoûtant. Et pourtant, il y a quelque chose de presque érotisant dans la manière où Carter a décidé de tourner cette séquence. Donc, on sait que le réalisateur est capable de montrer une violence assez juicy parce qu'il a réalisé le film The Runes en 2008, donc Les Ruines, qui était une adaptation de la nouvelle éponyme de Scott Smith. Et non, j'ai fait des recherches, c'est pas, semble-t-il, que ce ne sont pas parents. Donc, The Runes est un film gore qui n'a pas peur de montrer des corps détruits, rongés par des vignes diaboliques. C'était aussi un gros film de studio avec une grosse campagne marketing sorti dans les années torture porn. Donc, vous en connaissez pas beaucoup sur le torture porn, ben allez écouter mon premier épisode, c'est bien bien intéressant. Avec une prémisse comme celle de Swallowed et un réalisateur comme Carter Smith, on aurait pu s'attendre à un gore fest avec des insectes mutants. Mais non. Le film est considéré comme un body horror. Peut-être, mais certainement pas de la manière graphique et dégoûtante qu'on a pu voir dans The Runes. On revient à la scène de fisting à vaseline. Le contexte est sale et la cinématographie est propre. Par exemple, on a un gros plan sur la main de Ben après avoir sorti un premier sac. Donc sa main est luisante de vaseline, mais aucune trace de sang ni d'excrément. Donc, je sais bien qu'on n'est pas dans Human Centipede 2, as I said, mais ça aurait été logique. Ça aurait été logique de voir ça. Mais le réalisateur a décidé de ne pas montrer ça. Tout comme en pornographie, hein? On doit montrer des corps propres, pas de transpiration, pas de fluide rougeâtre ou brunâtre, parce que ce qu'on vend en pornographie, c'est du fantasme. Donc, Éric Falardeau pourrait vous en parler de long en large dans son ouvrage « Le corps souillé », gore, pornographie et fluide corporel, que je vous invite à lire si vous avez envie de philosopher davantage sur le cinéma extrême. Mais revenons à la notion du fantasme. Dans Swallowed, on nous vend aussi beaucoup de fantasmes, dont le fantasme ultime du meilleur ami straight qui tombe en amour avec son meilleur ami gay. Donc nous, les twinks, avons tous déjà fantasmé sur le chum un peu trop amical de notre amie Stéphanie, même si on ne dira jamais à Stéphanie. Bref, Swallowed est selon moi un film engagé dans sa façon de présenter une relation homosexuelle au cœur de son récit, sans que l'histoire tourne uniquement autour de l'orientation des personnages. On est plutôt dans la normalisation, on est plus dans la normalisation que dans le sensationnalisme. Et pourtant, on a au casting deux jeunes hommes vraiment gâtés par la nature, on s'entend, ils font pas « boy next door », à moins qu'on parle du site, ils ont vraiment un physique qui crie « Je suis un modèle pour American Appeal ». Autrement dit, un casting parfait pour un porno gay. Et ces personnages-là sont placés dans les situations les moins sexy du monde. Donc ils sont au summum de leur vulnérabilité, et pourtant aucun angle de caméra dans Swallowed ne réussit à les enlaidir. Ils sont trop beaux. Ils ont le droit, hein, c'est pas un reproche. Ce que je trouve frustrant, cependant, c'est d'avoir des personnages au physique aussi parfait dans une situation aussi fantasmée que celle qu'ils vivent. Ça rend l'identification au personnage plus difficile. Et pour un film queer, je trouve ça dommage. Donc encore une fois, je me retrouve devant mon discours contradictoire face au film gay. J'adore l'esthétique des corps, qui pourtant me fait me sentir mal dans le mien. J'aime voir des personnages gays à l'écran parce que je devrais pouvoir m'y retrouver. Et oui, je peux m'y retrouver en partie, mais je me retrouve plus souvent jaloux de ces personnages qui se retrouvent dans des situations pourtant misérables, mais glamourisées, donc admirables. J'ai été dans la grosse marde moi aussi l'an dernier, où ce qu'il est mon Apollon toujours bandé avec un six-pack qui va m'annoncer qu'il m'aime depuis qu'on est à petite école. Ah! Ah là 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 là, tout ça pour dire que je crois qu'à ce moment-là du film, pour aller au bout de son idée, on aurait dû voir du sang et du caca sur la main de Benjamin. Or, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, on a un autre personnage qui débarque et là, on se rend compte que c'est lui le vrai méchant du film. Donc Rich, le dealer, interprété par Mark Patton, notre scream queen iconique de Freddy's Revenge. Donc il est arrivé et il veut ses bébites. Donc tout de suite, le personnage est dégueulasse. Il fait des remarques du genre « Oh, quel beau garçon !» ou encore « J'ai presque envie d'aller chercher ses sachets moi-même. » Donc voilà, un gros prédateur. Alors que Dom agonise de plus en plus, Rich ordonne à Benjamin de poursuivre la cueillette et de se dépêcher. Il y a quelque chose de très intéressant qui se produit à ce moment-là avec Alice, le personnage de Jenna Malone. Dès l'arrivée de Rich, on dirait qu'elle laisse tomber sa carapace de grosse tough pour devenir plus vulnérable. Pour la première fois sur son visage, on peut voir de l'empathie, oui, de l'angoisse pendant que Ben continue le travail. Et à un certain moment, Rich ordonne à Alice de s'en aller. Il lui dit que son travail est terminé et qu'il va s'occuper du reste lui-même. Avec ce qu'on a pu voir du personnage à présent, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle réponde à Rich « Ok, bye !» puis qu'elle sacque son camp. Mais non, elle répond qu'elle peut rester, hein, que ça lui dérange pas, mais Rich lui ordonne encore une fois de partir. Elle échange un long regard avec Ben, dans lequel on peut lire « Je suis désolé. » Acting. J'ai accroché mon micro. Beaucoup de choses sont dites dans ces 60 secondes. On comprend mieux pourquoi Alice cherche à faire aussi peur depuis le début. Elle veut pas que les choses niaisent. Faut que ça roule. Il faut que tout se passe comme prévu. Parce que mon boss est un hostie de fou et qui pourrait tous nous tuer. Donc à partir du moment où l'opération foire, elle se retrouve en danger aussi. Et je pense qu'elle sait que si les gars se retrouvent en présence de Rich, ça va être la pagaille. Et c'est pour ça que depuis le début, elle est aussi stressante, arrogante avec les mecs. Puis à partir du moment où finalement tout le monde se retrouve dans le chalet, elle se sent responsable, elle se sent mal pour les gars. Puis elle voulait pas en arriver là avec eux. Mais elle finit par quitter à contre-cœur, parce que c'est Rich qui est rendu avec le fusil. Donc voilà, ça, c'est mon interprétation de la chose. J'aime croire que c'est ce qui s'est passé dans la tête du personnage. Si vous avez vu autre chose, ben dites-moi le pas, parce que c'est de même que j'aime le voir. Voilà, donc Benjamin se retrouve seul avec son ami malade et le vieux dégueulasse. Le vieux dégueulasse ordonne encore à Ben de continuer sa fouille anale, mais il y a quelque chose qui bloque. Ben n'arrive pas à récupérer le dernier sac et Dom convulse de plus en plus violemment. Donc, paniqué, il demande à Rich d'aider son ami. Donc, avec le doigté d'un poing en rubber, Rich met la main sur le dernier sac qui se brise avant d'être expulsé. Donc, à ce moment-là, on se doute que Dom ne survivra pas. Il est en train de faire une overdose ou une hémorragie. Dans quelques plans soigneusement cadrés, on voit une grosse coulée de sang qui s'échappe d'entre ses jambes. C'est un moment vraiment triste où Ben comprend qu'il est en train de perdre son meilleur ami, Dash Lover. Pour la première et dernière fois, Ben embrasse Dom sur les lèvres en signe d'adieu, ce à quoi Dom lui répond « That's nice », avant de rendre son dernier souffle. Et ça, c'est vraiment, vraiment cute. Mais aussi vraiment, vraiment triste et misérable, voilà. C'est un film qui me fait mal, mais pourtant je peux... Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Directement après la mort de Dom, il y a Alice qui fait son retour. Yay, Alice! On comprend qu'elle n'est jamais vraiment partie, which is kind of cool, puis elle est complètement choquée en voyant le corps de Dom. Elle commence à dire « What the fuck, Rich? You can't just let things like that happen! » Elle le confronte, elle essaie ensuite de le calmer. Puis les deux sortent de la cabane pour parler, l'essence, Ben est seul à l'intérieur, toujours en état de choc. On entend un coup de feu dehors. Oupsie. Rich revient seul dans le chalet. Alice est morte. Ben est complètement seul avec ce pervers-là. Oh, 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 the tension is real. Rich commence à s'expliquer à Ben. Il lui dit que rien de tout ça n'était supposé arriver, qu'il est une bonne personne. Et là, il demande à Ben de lui dire qu'il n'est pas une mauvaise personne. Il est vraiment dégueulasse. Chapeau à Mark Patton pour l'interprétation. Donc, second switch de personnage, Ben se met en mode survie et s'apprête à utiliser la meilleure arme que le bon Dieu lui a remis, son hot body. Donc Rich va lui offrir de prendre un bain, sous le prétexte que ça va l'aider à se détendre et possiblement faire sortir le dernier sachet. Donc on s'entend que c'est juste un prétexte pour le voir tout nu, on n'est pas cave. Ben n'est pas cave non plus et il va jouer le jeu. Non, le seul que je trouve un peu cave dans cette séquence-là, c'est Rich, qui s'imagine qu'il a une chance avec un petit twink, non pas juste parce qu'il a un gun de pointé sur la tempe. C'est absurde. C'est aussi vraiment triste, d'une façon. Parce qu'on trouve, on retrouve beaucoup de la situation de Stéphane Rideau dans cette séquence-là. Donc, vous vous rappelez, Edgar, ça se termine en 30 ans, blablabla. Donc, voilà. Ici, on voit les deux extrêmes. Le jeune gay plein de rêve, d'ambition et de sex appeal, et le vieil homo has-been, rendu misérable par le temps, et qui doit maintenant saisir ce qu'il veut par la force. Même s'il n'y a aucune bienveillance face à Ben... Même s'il est un vieux pervers, il y a quelque chose de tellement pathétique à propos du personnage qui fait que... Je sais pas, on a quand même un petit peu d'empathie pour le bonhomme. Je crois que le réalisateur voulait aussi qu'on ressente une certaine empathie face à ce personnage-là. Parce qu'il y a quand même des moments où on le voit seul, et qu'il se met juste à pleurnicher comme une lopette. Encore une fois, vraiment pathétique, mais ces moments-là sont des moments humanisants pour le personnage de Rich. Et je trouve ça intéressant que le réalisateur ait ajouté cette touche-là, minime, mais qui empêche le personnage d'être complètement unidimensionnel. Voilà, j'ai le mot anal dans la tête pour ça. Bref, retour de temporalité. Ben se déshabille langoureusement devant les yeux rincés de Rich the Bitch. Avant d'aller dans la salle de bain, le vieux dégueulasse lui donne quelques secondes d'intimité, ce qui permet à Ben de voler une pince à épiler qu'il va dissimuler avec lui dans la baignoire. Donc Rich entre dans la pièce et commence à savonner Ben. Ugh. Malgré un inconfort palpable, il continue à jouer le jeu. Rich lui offre un verre, va lui faire la conversation. Il va notamment lui en dire plus sur les fameuses bestioles. Donc, à this point, on en sait déjà pas mal. Mais en gros, une fois que ce truc-là te pique, t'es paralysé. Mais tu peux tout sentir. Et ça garde ta queue dure pendant 9 heures. Et ça te met dans un état un peu comme si t'avais fait de l'ayahuasca avec un sorcier vaudou qui t'a peint le visage. Donc, faut vraiment vouloir se péter la face. Donc, Ben continue à utiliser de ses skills de porn star pour séduire Rich lorsqu'il se fait sécher tout nu devant le feu. Voilà. Il va sortir quelques minutes pour pisser. Et là, il va constater le corps mort de Jenna Malone. Rest in peace, bitch. Après sa pisse, Rich l'appelle via le cadre de porte et lui offre de conclure le deal en lui remettant les parts d'Alice et de Dom parce qu'il se sent tellement mal à propos de ça, parce qu'il est une bonne personne et non parce qu'il veut que Ben se ferme la gueule. Ben accepte à condition de voir l'argent maintenant. Alors, de retour dans le chalet, Rich lui offre une belle pile de cash et un manteau de cow-boy que Ben fait semblant d'aimer. Mais en fait, il y dissimule sa pince à épiler. Et quand vient le moment opportun, il lui enfonce la pince dans le cou. Yes! Souffre, vieux dégueulasse! Ben s'enfuit dans le bois, vêtu uniquement d'un speedo et d'un coat de cow-boy. Mais un gros mal d'estomac le force à s'arrêter, s'accroupir et expulser le dernier sac de larves. Ça sonne encore plus dégueu dit de même. Donc, pendant ce temps-là, Rich le poursuit dans les bois en lui criant « You dick tease the wrong queen, you little cocksucker !» Et ça atténue un peu la tension. Rich finit par abandonner et retourne vers le chalet. Après avoir crissé le corps d'Alice dans Bécos, il entre dans sa cabane et commence à panser ses plaies en pleurnichant. À ce moment-là, Ben fait silencieusement irruption dans le chalet, s'empare d'un tisonnier et se jette sur le vieux dégueulasse. Il se débat quelques instants, mais Ben finit par le neutraliser. Il s'empare de la bébite, qu'il a expulsée plus tôt, et la force à mordre Rich, qui se retrouve paralysé, mais conscient, on s'en rappelle. Donc, est-ce que sa graine, à lui, est dure? Ben, on le saura pas. Un autre choix de réalisation, je suppose. Dans un moment vraiment satisfaisant, Ben traîne Rich dehors jusqu'à la bécosse pour le décalisser dans le trou, lui faisant ainsi subir le même traitement qu'il a fait subir à Alice. C'est juste que lui, il va tout sentir. Dans une autre scène vraiment touchante, on voit Ben qui nettoie le corps de Dom à la rivière. Question d'offrir un dernier moment de dignité à son ami. Donc, il lui offre aussi un dernier moment d'affection en lui embrassant la main avant de le laisser partir. Et ça me fait pleurer à chaque fois. Et je me sens mal à chaque fois. Et je trouve ça émouvant comme scène. Mais je la trouve aussi très dure. On s'est attaché à ces personnages-là pendant 1h30. On les a vus vivre un moment typiquement mi-vingtaine, en début de film, en train de fêter nonchalamment dans un bar crado. On les a vus tomber en amour, on les a vus être là l'un pour l'autre, non-stop, dans un contexte horrible. Alors non, ça me laisse pas indifférent. Je crois pas que cette scène-là puisse laisser personne indifférent, à vrai dire. Sérieusement, juste en parler, ça me fait monter les larmes, sapristi. Ça me met, au final, dans le même état que les films que j'ai mentionnés plus tôt. Il y a un sentiment d'impuissance immédiat face à autant de nihilisme. Il y a une note d'espoir dans l'épilogue où l'on voit Benjamin dans un award pour l'industrie de la porno. Hein, il se fait interviewer, il est charmant, plein d'assurance, il remercie infiniment les gens qui ont cru en lui depuis le début, et on comprend qu'il s'adresse directement à Dom et... fin du film. Et oui, il y a quelque chose de beau dans cette fin, que même après un événement aussi traumatique, le personnage de Ben, qu'on adore depuis sa première apparition à l'écran, qu'on souhaite voir réussir, ben, il réussit. Mais à quel prix? Il a perdu son ami d'enfance, qui a fait une overdose de bébite, qui venait de lui déclarer son amour, et s'il a réussi à s'en sortir, c'est en tuant et en vivant d'argent volé. Alors oui, c'est de l'argent qu'il a techniquement obtenu grâce à son loverdom, mais n'empêche que tous ces éléments font que je termine chaque visionnement de Swallowed avec un goût amer dans la bouche. Donc c'est un petit downgrade émotif. Alors voilà, j'adore ce film et je le déteste. 5 étoiles! C'est pas pour rien que je m'en suis servi comme principale référence de cinéma gay. Hein? Swallowed met en scène toute la misère, le malaise, mais aussi toute la passion, la sensualité, la cruauté à laquelle je m'attends dans un film comme celui-ci. Et malgré tout, je replonge dedans à chaque fois, à cœur joie, dans un beau cycle autodestructeur. Et c'est pas mal ça. Je sais pas si on a appris grand-chose dans cet épisode, considérant que j'ai nommé beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui m'appartiennent, et j'ai surtout résumé dans le détail « Swallowed ». C'est ce qui me permet en fait de relever toutes les choses dont j'ai envie de parler. Et je veux rien oublier, puis ironiquement, durant la dernière heure où j'ai juste fait ça, parler, j'ai probablement oublié 25 éléments que je voulais dropper. Anyways, toute bonne shit a une fin. Tout ça m'aura permis, au final, de prendre du recul, à peut-être mieux comprendre pourquoi ces films-là me séduisent et me détruisent à la fois. Je le répète, je serais bien intéressé de lire vos avis, vos propres sentiments face à ce genre de cinéma ou sur ce film, très précisément. Je serais curieux de savoir si vous êtes en mesure de relate à ce malaise-là, un peu masochiste, que me procurent ces films-là, ces films érotico-misérables. Ah oui, c'est beau. Ah, on va les appeler comme ça, ouais. Bref, il n'y a peut-être pas de vraie conclusion, mais ça fait du bien d'en parler. Merci. Ça fait toujours du bien d'extérioriser, mais surtout de jaser de cinéma. Par rapport à ça, pour les prochains épisodes, il va y avoir de plus en plus d'invités. Premièrement parce que ça demande moins de temps et d'énergie côté écriture. Mais aussi parce que la discussion est souvent plus intéressante que le monologue, même si j'ai bien du plaisir à me parler tout seul. Donc sur ce, je vous souhaite une nuit remplie de beaux mâles en bédaine. Tout le monde a besoin de ça pour passer à travers un hiver difficile, même ceux qui le nient. Donc pensez bien à ça. C'était Tutsi pour le Café Plot. À bientôt.